Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h33, le débat des grandes voix avec ce soir à mes côtés Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
On commence par la colère. La colère qui traverse le pays en ce moment après l'annonce des nouvelles mesures sanitaires, après Aix-Marseille, après la Guadeloupe. 11 métropoles sont donc concernées à partir de ce soir, 22h. Les bars et les cafés devront fermer plus tôt. Des manifestations ont eu lieu un peu partout en France aujourd'hui contre ces restrictions. Et les élus, parfois, sont d'accord avec eux. Écoutez d'abord la colère de ce Marseillais.
Je dis que les restaurateurs ont bien raison. Moi, je les soutiens, mais dommage que ce ne soit pas les élections demain, parce que là, Macron, il s'autorise jusqu'à la planète Mars, quoi.
C'est une situation assez inédite, hein. Macron, planète Mars, voilà, ça vous fait sourire. Planète Mars, en plus, vous savez que c'est le titre d'une chanson d'Ayam, planète Mars, planète Marseille.
Ah oui, donc c'est bien tombé.
C'est une référence. C'est une situation inédite, Charles Villeneuve, depuis le début de la crise en mars. On sent que les Français ne sont plus prêts à accepter toutes les mesures en fermant les yeux, comme ça a été le cas au printemps dernier.
Mais parce que la tendance n'était pas, si vous voulez, de l'opinion ne s'attendait pas à plus de sévérité. D'abord, rappelons-nous que passer de la quatorzaine à la septaine était une décision plutôt qui ne générait pas d'anxiété, et le président de la République y tenait, parce que lui-même, de toute façon, avait évité justement d'augmenter le coefficient d'anxiété. Et dans ses propos, ça ressortait d'une manière extrêmement nette.
Donc c'est la communication qui joue un peu contre l'exécutif,
c'est-à-dire oui, qu'ils ont oui, été moi peut-être... je trouve que chaque fois il insistait notamment sur l'économie et pas sur l'extension et la course que le coronavirus avait commencé dans les régions, dans les territoires, et il n'a pas joué sur les peurs. Mmh, et donc tout d'un coup, si vous voulez, alors qu'on annonce et que le Premier ministre Jean Castex se présentant comme l'homme des territoires, de la concertation, etc., et qu'on avertit les élus, notamment du Sud, si vous voulez, au dernier moment, une heure avant, oui, en laissant tomber un nombre de restrictions importantes.
Vous avez entendu, il n'y a pas que dans le Sud, Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, disait la même chose.
Bien sûr,
on n'a pas été prévenus, on n'a pas été consultés.
C'est vécu comme une punition. Oui. Dans le Sud, en tout cas, je peux vous dire que c'est vécu comme une punition, parce que les bars ne font leur chiffre d'affaires qu'à partir de 22h, en gros. Les restaurants respectent quand même les distances et les gestes barrières. C'est encore pire, je trouve en tout cas mieux. Moi, je ne comprends pas du tout la fermeture des clubs de sport.
Oui.
J'ai été au sport, comme d'habitude, notamment à Molitor, pour ne pas le citer. Dimanche après-midi, nous avons 3 appareils de distance l'un par rapport à l'autre. Nous avons de l'hydroalcoolique, en veux-tu, en voilà.
Oui.
On arrive avec le masque et les gants, quasiment. Oui. Et on ferme, je ne comprends pas, parce que s'il y a une discipline, elle est respectée par rapport aux consignes gouvernementales et médicales et scientifiques.
Et dans le même temps, certains disent les bus, les transports en commun sont bondés, les gens ne peuvent pas respecter.
Voilà,
il y a le sentiment d'injustice
pour faire suivre les restrictions, ne pas, si vous voulez, faire naître autant d'opposition, il faut qu'elles soient consenties.
Alors,
c'est la raison pour laquelle il y a une pédagogie auparavant, avant de laisser tomber toutes les punitions qu'il a pu laisser tomber, c'est vécu comme des punitions.
Oui.
Il aurait fallu beaucoup plus dialoguer avec les élus.
Alors, y a-t-il un vent de révolte qui souffle sur la France? Et est-ce inquiétant, Gérard Carrérou? Parce qu'on a l'impression vraiment d'une fronde assez inédite en ce moment dans le pays.
Je crois que cette fronde ne durera pas longtemps et n'aura pas l'importance qu'on pouvait penser au départ. Pourquoi? Alors, c'est vrai ce qui a été dit précédemment. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de maladresse dans la gestion, notamment de la communication. Effectivement, le ministre Véran n'a pas été un bon communicant dans cette affaire. Et en même temps, le Premier ministre Castex, qui avait toujours mis l'accent sur la concertation, lui, le provincial, avait la sang qui allait tout de suite voir le préfet, les élus, etc. Ça n'a pas marché. Quand les grands... comme j'entendais Muselier expliquer qu'il a été prévenu une demi-heure avant, président de la région Sud, c'est pas possible.
Oui.
Donc il y a eu la colère. Et c'est vrai, et cette colère, je dirais, ce coup de colère a une grande légitimité, ne serait-ce qu'à cause de la communication.
Mais vous dites que la température va retomber.
Oui,
attention,
alors je vais vous dire pourquoi.
Attention, il y a deux ans, vous souvenez, les gilets jaunes, c'est parti d'un rien.
Je ne crois pas que ça sera comme les gilets jaunes, je peux me tromper, je ne le crois pas. Je pense que cette colère... D'abord, elle a commencé et elle s'est développée avant que les commerçants en question soient au courant des procédures financières d'indemnisation. là aussi, c'est une erreur de com. On n'annonce pas qu'on va fermer sans leur dire attention, on va vous indemniser, etc.
Justement, donc, je t'interromps juste deux secondes. Gérard, est-ce que tu ne crois pas justement que c'est l'indemnisation, c'est d'abord de la com, parce que pour l'instant, il n'y a rien de concret. C'est ce que te disent tous les commerçants.
Bon, alors, les commerçants et les hôteliers, les restaurateurs disent de toute façon, ils vont faire leur compte.
Ils vont faire leur compte. Si l'argent ne vient pas, alors là, effectivement, je ne sais pas ce qu'il adviendra. Oui. Mais simplement, si l'argent vient ainsi, etc., je pense que ça sera une colère un peu à la Marseillaise. Hein. C'est un peu comme dans Pagnol.
Il n'y a pas que Marseille.
Non.
Il y a 11 grandes métropoles.
Non, mais attends, tu t'es exprimé sur le sujet. Moi, j'ai un avis différent. Je pense effectivement que ça sera une colère superficielle, qu'il était, normal que ces gens se mettent en colère, et que finalement... Et d'ailleurs, on pouvait penser, si ça avait été ce que tu crois, on pouvait penser qu'il y aurait des actes importants de désobéissance civile.
Alors justement,
et qu'on avait entendu dire, attention, il y a même un élu marseillais important...
Sami Ghali.
Qui a dit, deuxième adjointe, qui a dit, attention, la police ne mettra pas de procès-verbaux, etc. La police municipale, etc. Ça, c'était un acte, on peut dire, d'encouragement à la désobéissance civile. Or, tout ça s'est calmé, tout le monde a dit, bon, on négocie, il y aura la revoyure dans une semaine, on est entré dans un climat d'apaisement.
Oui.
Plus globalement,
on continue d'en parler juste après la pause, 18h39. D'accord. On se retrouve dans quelques instants avec les grandes voix, tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h41, on est toujours avec les grandes voix, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou, et on parle ce soir de la fronde contre le pouvoir central, quand la concertation devient d'une certaine manière un piège, car il y a dans le pays un vent de révolte, c'est vrai, de la part des restaurateurs, des cafetiers, des bistrotiers, et d'une part des élus. Alors, vous disiez juste avant la pause que vous pensiez, Gérard Carrérou, que cette fièvre et cette fronde, elle sera de courte durée. D'un autre côté...
Non mais attendez, pour une raison que je n'ai pas développée à cause de notre publicité aussi essentielle...
Allez-y, Gérard.
Qui est celle-ci? Je crois qu'une majorité de Français, j'appellerai ça la majorité silencieuse de nos concitoyens, a encore peur. Les gens ont peur du deuxième choc. Et effectivement, d'ailleurs, il y a beaucoup de choses anxiogènes. Les désaccords, même encore étalés entre les médecins qui disent que ça va aller mieux et d'autres... Bon, tout ça fait que les gens ont encore peur. La peur ne conseille pas des actions, de rébellion, etc. Donc, je pense que ça va se terminer assez rapidement.
Mais quand on n'a pas de quoi finir les mois et que financièrement, on est ricrac...
Ça, c'est la peur sociale.
La colère peut aussi susciter de la défiance et donc de la désobéissance.
À la décision dont nous avons parlé ce soir.
Moi, je connais plein de restaurateurs et plein de patrons de salles de sport qui me disent je ne peux plus fermer. Je ne peux plus me permettre de fermer.
Oui. Alors maintenant, ce qu'il faut relativiser, si vous voulez, notamment le catastrophisme ambiant, c'est qu'il faut savoir que les secteurs qui sont touchés, l'hôtellerie, les loisirs, les bars, les restaurants, représentent 4% du produit intérieur brut de la France.
C'est énorme. Hein.
C'est énorme, mais ce n'est pas suffisant pour avoir la peau de la reprise économique. Ce qu'il y a, si vous voulez, c'est qu'à travers ces restrictions, il y a quand même un signal qui est envoyé à la population. Et ça correspond à ce que vient de dire Carrérou. C'est-à-dire que ce signal va augmenter, si vous voulez, la prudence des gens, sinon la peur même. La crainte, en tout cas, en disant, finalement, si on prend autant de décisions aussi sévères que celles, justement, sur les bars, parce qu'il faut aussi dire que les bars vont à Paris et dans 10 autres grandes métropoles, comme Lille, Toulouse, Lyon,
fermés
à 22h dès ce soir. Et l'interdiction des clubs de sport,
comme s'il y avait une explosion des contaminations entre 22h et minuit.
C'est fermé, de toute façon, pendant 15 jours, jusqu'au 10 octobre inclus. Mais ce signal, si vous voulez, de prudence, va augmenter, si vous voulez, la crainte qui existe déjà dans la population. Ça, c'est vrai.
Oui, donc quand on a peur, on ne se révolte pas, en tout cas pas tout de suite.
Oui.
Et c'est vrai qu'on est dans une terrible incertitude, ce qui fait que, vous voyez, les élus, au fond, dans une affaire comme ça, c'est les élus du Midi, notamment, s'ils avaient pris la tête de cortège en disant « nous irons jusqu'au bout, quel que soit le comportement ». Et si on avait vu éventuellement des manifestations avec un peu de violence et avec des policiers qui éventuellement se bagarraient avec des manifestants, là on était parti. Mais j'ai vu tout de suite, si vous voulez, les élus ont freiné des quatre fers, le président de région Muselier en tête, et les autres, ceux qui étaient partis très vite, comme les élus marseillais, nous fraîchement élus, ils ont rétroupé d'aller.
Mais ça crée quand même, Gérard Carreau, de la défiance, parce que le gouvernement avait basé toute sa stratégie sanitaire sur la discussion, sur la négociation, sur une approche de proximité pour éviter de reconfiner, comme ça a été fait au printemps, et de faire des reconfinements partiels et localisés. Or, on voit que la logique jacobine reprend le dessus.
Ah ben oui, le Castex 2 a fait le contraire de Castex 1. Ça, c'est mauvais pour, effectivement, la gestion gouvernementale.
Bien. On marque une pause, on se retrouve dans quelques secondes et on parlera du silence d'Emmanuel Macron. Silence assourdissant, disent certains, suite à l'attaque survenue devant les anciens locaux de Charlie Hebdo vendredi. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Oui, 18h48, on est toujours avec le débat des grandes voix. Ce soir, à mes côtés, Charles Villeneuve et Gérard Carreau. Et une petite correction, Samia Ghali, on en parlait tout à l'heure, tous les trois, eh bien, deuxième adjointe et non pas troisième adjointe, comme cela a été dit, mea culpa. On évoque à présent ce silence assourdissant du chef de l'État après l'attaque survenue vendredi au pied des anciens locaux de Charlie Hebdo. Pas de communiqué, pas de tweet, pas une déclaration d'Emmanuel Macron suite aux événements, c'est inédit. Alors que faut-il en penser, Charles Villeneuve? C'est un silence qui pèse lourd tout de même, surtout venant d'un président habitué à réagir habituellement très vite.
Alors l'Élysée, quand vous discutez avec un certain nombre de proches du président, invoque trois raisons.
Oui.
Première raison, l'exécutif s'est largement occupé les médias, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur. Et puis, le président de la République n'a pas finalement à occuper tout autant les médias, mais il a téléphoné aux victimes, aux parents des victimes, aux familles. Il a téléphoné aussi à la rédaction de Charlie Hebdo.
Oui.
Mais évidemment, il prend comme troisième raison le fait que vendredi prochain, il s'exprimera sur le séparatisme et qu'il nommera l'islamisme, ce qu'il n'a jamais fait jusqu'à présent. Et si vous voulez, on ajoute aussi, et je cite, il le fera sans détour, sans gêne, sans tabou, sans faux semblant.
Ses opposants vous diraient, il est temps. Peut-être un mot
exactement. Oui, alors moi je pense que les trois raisons. Non, mais attendez, les trois raisons.
Silence.
Oui, alors le silence. Je trouve que le silence, là en l'occurrence, est une mauvaise chose. Pourquoi? Les trois raisons que Charles vient de donner, qui sont la version officielle, un peu, bon ben voilà pourquoi il n'a pas parlé, il se réserve pour vendredi, Darmanin a fait le boulot, etc. Donc, à mon avis, ça ne tient pas la route. Pourquoi? C'est un acte terroriste qui a une valeur extrêmement forte au niveau du symbole.
Oui.
Pas tellement au niveau de l'ampleur. Parce que des gens pourraient dire, oui, mais écoutez, regardez, c'est très modeste comme bilan. Il y a deux blessés, et fort heureusement,
je dirais,
il y a deux blessés, quand même, dont l'état de santé est quand même compromis un petit peu. Mais ce n'est pas suffisant, parce que ce n'est pas une question de savoir s'il y a eu deux blessés ou quatre morts. En l'occurrence, il aurait pu y avoir plus. Mais c'est un bilan au panthéon, si vous voulez, au panthéon noir du terrorisme en France. C'est un symbole qui rappelle tous les mauvais souvenirs. Ne serait-ce que par le lieu où il
Bien
a...
Bien sûr. Charlie,
Bataclan, le supermarché Cachère, tout ça nous revient.
Et puis en plein procès des attentats de 2015.
Et bien évidemment, et en plein milieu du procès. Donc ça nous revient en pleine figure. Et là, je trouve que contrairement à ces raisons élyséennes, pour essayer de justifier le silence, je pense que ça ne tient pas la route.
D'ailleurs,
aurait dû s'exprimer.
Oui, on sent que l'Élysée est un peu embarrassée, puisque l'Élysée nous fait savoir qu'il ne faut pas y voir une forme de détachement, que le président suit la situation de très près. Ça sent le storytelling, comme on dit chez les anglo-saxons. On nous dit à l'Élysée qu'il ne souhaite pas tomber, ce sont les mots de l'Élysée, dans la tyrannie du tweet facile.
Oui, jusqu'à présent, sincèrement, à l'exception du jeune qu'il a respecté quand il est arrivé au pouvoir, depuis, il est largement, si vous voulez...
Un jeune garçon l'avait apostrophé en lui disant « Hey, Manu », et il avait répondu un peu vertement,
voilà,
c'est ça.
Mais depuis, il a quitté son Olympe et sa toque de Jupiter. Et il s'est exprimé, notamment aussi par tweet, largement. Il n'a jamais
dans le
perdu
même temps,
une
oui, bien,
occasion.
Manuel Valls a réagi, François Hollande a
oui.
réagi,
non, mais,
en
oui,
disant
mais,
c'est la République qu'on attaque.
Oui, mais Julien, n'oubliez pas qu'il est le chef des armées aussi. Il est le chef de l'État, mais il est le chef aussi des armées. Et ne serait-ce que cette responsabilité aurait dû quand même l'amener à dire quelques mots. Alors, on nous dit que vendredi, évidemment, il parlera de cette attaque au hachoir, dans un lieu symbolique, comme le soulignait Gérard Carrérou. Évidemment, c'est au pied des anciens locaux de Charlie Hebdo, avec tout ce que ça implique, et notamment les 11 tués de la rédaction de Charlie Hebdo. Alors, ce qu'on attend de lui, en tout cas vendredi...
Vous pensez que les Français, c'est audible ça pour les Français, de leur dire je ne prends pas la parole tout de suite parce que dans une semaine j'ai prévu de faire un discours, j'en parlerai dans une semaine.
Je pense qu'il aurait dû de toute façon intervenir. Mais je pense aussi qu'il faut attendre le rendez-vous de vendredi.
Oui, mais attendez, une chose qu'on n'a pas dite encore, c'est que son silence est d'autant plus assourdissant qu'il intervient à un moment où on l'entend. C'est pas comme s'il était aux abris et qu'on l'entendait
sur le Liban.
On l'entend parler du Liban, mais d'un ton alors extrêmement ferme, parler haut et fort. Il dénonce les traîtres, parlant de la classe politique libanaise, les ministres, etc. Et la honte sur la classe politique. Et en même temps, on l'annonce, on l'entend aussi dire que le dictateur réélu, mais dictateur quand même, de Biélorussie, devrait se retirer. Donc le président de la République, qui prend des positions, je ne dis pas d'ailleurs qu'elles sont fausses, en l'occurrence, les deux que je cite, je pense qu'elles sont plutôt justes.
Elles sont justes et excellentes.
Mais en même temps, il faut quand même se souvenir qu'il n'est pas le président de la Biélorussie ni le président du Liban. Il est d'abord et avant tout élu par les Français pour être le président de la France.
Bien sûr.
Et donc, sur une affaire française qui a cette importance, on l'attendait. Au passage.
Mais tu sais très bien que dans un contexte, c'est vrai, pour poursuivre ce que dit Gérard Carrérou, dans un contexte où on le sait attendu sur ces sujets-là, où on sait qu'il a une faiblesse d'une certaine manière.
On verra mercredi, on verra vendredi.
D'ailleurs, l'opposition.
On verra vendredi et on va le juger, non pas sur l'expression du mot islamisme, qu'il n'a jamais, qu'il a toujours évité de prononcer, puisqu'il a choisi
séparatisme, le séparatisme islamiste.
Or, c'est le séparatisme islamiste qu'il va traiter. Et surtout, là où on l'attend, non pas comme dans le cadre du discours du Panthéon sur le 150e anniversaire de la République, etc. Là, on l'attend sur les actes aussi. C'est-à-dire qu'il va s'attaquer vraiment à l'idéologie politique que constitue l'islamisme politique.
Et vous pensez qu'il
faut pas comprendre, qu'il ne faut pas confondre avec l'islam, qui est une religion.
Bien sûr.
L'islamisme, c'est l'idéologie politique, justement.
Et vous pensez qu'il peut faire des annonces concrètes, fortes ?
Oui, je pense. J'espère qu'il va parler des horaires de piscine réservés aux femmes, de l'égalité homme-femme.
Oui, mais ça, le constat, ça fait longtemps qu'on le sait. Maintenant, il faut des actes.
Non, il n'a pris aucune décision. Il n'a jamais annoncé aucune décision concernant, justement, ce constat. C'est très bien de l'évoquer, d'en parler, de le condamner. Mais qu'est-ce qu'on fait contre, si vous voulez, et puis surtout les écoles hors cadre, toutes celles qui, de toute façon, n'ont pas le label d'enseignement religieux fanatique.
Oui.
C'est ce qu'il fait. Et puis moi, si vous voulez, ce
non
qui...
Non mais attends, moi je l'attends sur des actes.
Je voudrais ajouter quelque chose.
Il nous reste 20 secondes.
Je l'attends sur des actes,
parce qu'il n'a jamais cité l'islamisme. Il n'a jamais véritablement...
C'est ce que vient de dire Charles.
Oui, non mais attendez, aujourd'hui, ce matin, on a entendu un ancien Premier ministre de la République française, qui s'appelle Manuel Valls, qui a redit tout... Et il a rappelé même, Manuel Valls, comment il s'était heurté il y a 3 ans à Emmanuel Macron sur ce sujet précis.
Oui, ils ont une approche
différente. Donc j'attends, moi, des actes qui vont dans le sens d'une condamnation réelle de l'islamisme radical.
La condamnation ne suffit pas, à mon avis. Ce sont les décisions et les actes. Si vous voulez notamment faire quelque chose pour casser tous les liens entre petite délinquance, banditisme et encadrement religieux dans les quartiers. Ceux dont on dit, dont qu'on qualifie de territoire qui est perdu de la République.
Et on aura l'occasion d'y revenir. Réponse vendredi 2 octobre avec ce discours très attendu sur le séparatisme du chef de l'État. 18h56, on se retrouve dans quelques secondes pour le Grand Journal et le Club des Idées. A tout de suite.